Alors, on va parler donc des sorties donc de ce mois d'avril. On va évidemment pouvoir vous parler des nouveautés Comics du Mec, ce qu'il ne faut surtout pas acheter.
Alors, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas acheter ?
Ce qu'il ne faut surtout pas acheter. Alors, on va dire c'est souvent, mais c'est vrai que chez DC, j'ai rien trouvé vraiment pour m'énerver. Chez Marvel, c'est même pas moi qui vais m'énerver dessus. C'est un scénariste qui s'appelle Brian Clevinger qui va lancer... Alors, au cas où tu n'es pas au courant, il y a un film Captain America qui est en préparation.
Oui, j'ai vu que dont le teaser a été passé au Super Bowl récemment. Le Super Bowl qui a l'occasion de passer toutes les bandes annonces de films de super-héros.
Voilà. Alors, bon, on est à peu près optimiste quand on voit ce teaser. On est un peu Marvel est très optimiste quand on voit le nombre de productions sur Captain America qui lance dans tous les sens.
Et ils sont surtout très positifs après le magnifique film d'Albert Pyun contre le crâne rouge dans les années 80.
Ouais. Et ben là, donc ils ont commandé des séries de tous côtés. Hein. Donc vas-y que je fasse un spécial un soir. Si on pouvait écrire un truc sur la maman de Captain America, ça pourrait remplir du papier aussi. Ils ont demandé des tas de séries à tout le monde pour tout et n'importe quoi. Et évidemment, quand il y a un film, on essaye de diversifier les publics. Et on a donc demandé à Brian Clevinger d'écrire une série destinée à un jeune public. Donc il a fait une série qui s'appelle Captain America The Fighting Avenger. Il lance tout un projet sur une série continue pour jeune public, comme il existe pas mal de séries chez Marvel. Hein. Pour jeune public, c'est pas un truc totalement isolé. Il y a plein de séries du genre qui existent. On lui en demande une sur Captain America. Go, il écrit une série continue. Au final, on lui fait « Ouais, alors bon, on ne sait pas si on va la faire en continu, on ne sait pas si ça va durer après le film. Concentre-toi plutôt sur une série limitée en 4. » Bon, bah, il écrit une série limitée en 4. Et au final, on lui annonce qu'il n'aura qu'un épisode double. Donc évidemment, il s'est enquiquiné à trouver un concept, une série un peu longue. Et ben voilà, il se retrouve à faire un one-shot de 48 pages sur Captain America contre Crâne Rouge. Et là, évidemment, il est un peu très énervé parce que à une époque où on peut vendre tout et n'importe quoi de Captain America, on l'a juste fait travailler sur un concept qu'on a sabordé avant même de le solliciter, avant même de savoir s'il y avait un public pour l'acheter. Parce que quand on transforme une série en one-shot, c'est un peu très énervant pour lui. Qui sait, peut-être que la presse défendra One Shot et que Marvel se retrouvera obligé de faire une suite. Après, sur ce genre de série jeune public, c'est quand même rarement le cas.
Oui, non, puis même si tu penses ta série en plusieurs, ça se sentira de toute façon. On connaît, même dans l'histoire du cinéma ou des séries, quand on réduit, c'est jamais bon.
Bah, c'est vrai qu'on peut faire juste se contenter de l'histoire d'ouverture et la transformer en mini-série. Sauf que si on lui a demandé d'en faire 4, alors déjà, quand c'est une ongoing, généralement, on va lui demander d'en faire 6, hein, pour que ça fasse un beau TPB. Si on lui demande une série limitée en 4, déjà, ça sent pas bon. Si en plus, au dernier moment, on lui dit, bah non, tu vas réduire de moitié le nombre de pages, au niveau de l'écriture, évidemment, ça ne peut pas avoir la qualité qu'on attendait de ce genre de titre. Donc ça, c'est effectivement le point d'insatisfaction chez Marvel, sur lequel, effectivement, il fallait ne pas passer.
Marvel a quand même... Je suis pas un spécialiste comics, mais quand même, à un côté, il est quand même bien mercantile, encore plus que les autres, j'ai l'impression, parfois.
Ah ben, c'est clair qu'en même temps, ils ont été en faillite pendant des années. Mmh. Ils se sont relancés grâce au cinéma. Leur ennemi, c'est quand même DC, qui appartient à la Warner. Quand aujourd'hui Marvel a la possibilité de donner le pion à Time Warner au niveau du cinéma, ils auraient tort de s'en priver.
J'ai quand même plus d'affection pour DC.
Moi aussi, mais bon, après, il y a aussi une question d'overdose par rapport à ça. Donc,
les adaptations ciné de DC, il y a eu des mauvais, mais Superman de Richard Donner, les Batman de Christopher Nolan, c'est pas mal.
Il y a des choses quand même, enfin...
Il y a Spider-Man en face, mais...
Les Superman de Donner, ça commence à dater, hein, donc...
Oui, mais c'est la référence. Moi, j'adore le Superman de Donner, c'est un des films que je regarde le plus souvent, je l'adore.
Ouais, bon, eh ben, on va donc continuer, donc ça, c'était au niveau de Marvel. Je vais garder Dark Horse et on va enchaîner sur les indépendants avec Boom Studio qui relance justement une adaptation. On parlait d'adaptation, donc là on était parti dans une adaptation d'un film adapté d'une bande dessinée. Là on repart sur vraiment une adaptation d'un film. Alors c'est pas la première fois qu'on nous l'adapte, hein. Tout le monde a tenté de l'adapter. Il y a une adaptation culte, notamment en France, qui était sortie à l'époque en noir et blanc et qui a eu son propre magazine. Il y a eu ensuite des adaptations chez différents éditeurs. Il y a une adaptation pour le film adapté, le remake des films. Et là, on revient avec une nouvelle adaptation de La Planète des Singes. Et là, évidemment, on peut craindre le pire. Alors, le point positif, quand même, c'est que...
Le rendu des poils, non ?
Alors, voilà. On repart sur l'adaptation en se basant sur l'origine. C'est-à-dire que la dernière adaptation qui a été faite était faite en même temps que le remake. Là, on repart sur la version 1968. Parce que c'est vrai que sur le plan dessin, j'avais les premiers films. Il y a eu la série télé qui était catastrophique, parce que du coup, tous les humains parlaient, parce que c'était beaucoup plus facile à produire. Et ensuite, on était revenu à une nouvelle adaptation. Bon.
Celle de Tim Burton, hein.
Ouais.
Oui, qu'on oubliera.
Hein ? Tu ne veux pas nous dire du bien de l'adaptation de Tim Burton ?
Non, mais Tim Burton a vendu son âme au diable il y a quelques années. Hein. Il a commencé en nous faisant cette planète des singes. Il a renié au fur et à mesure de ses films une certaine poésie de son cinéma. C'est quand même peut-être sa pire réalisation, la planète des singes. Mais comment Burton peut s'attaquer à un sujet qui est quand même relié à Richard Matheson, avant tout aussi à celui qui avait créé La Quatrième Dimension, qui était scénariste du premier ? Je vois pas, c'est deux univers qui se confrontent. C'était pas logique et le résultat était absolument catastrophique.
Voilà, donc là on peut se méfier. En plus, je sens pas l'adaptation forcément faite pour durer très très longtemps.
Mais surtout, qu'est-ce qu'on peut apporter ? Parce que les films, quand même, moi je me rappelle bien des Planètes des Singes, on comprend ce qui se passe sur le moment, on va pas révéler, mais on comprend sur quelle planète on se trouve. On comprend aussi, t'as plusieurs volets, au bout d'un volet, on retourne dans le passé où on voit comment les singes ont pris possession de la Terre. Ah, j'ai spoilé. On a pris possession de la Terre, donc je vois pas trop qu'est-ce qu'on peut apporter.
Alors, justement, là, ils partent sur une idée de préquel. C'est-à-dire que ça se passe avant les 5 films, et donc avant l'arrivée du premier homme. C'est une planète des singes avec que des singes.
Oui.
A priori, voilà, la logique...
Donc, ça contredit le premier.
Comment ça ?
Ah, parce que la planète des singes n'est... N'écoutez pas si on spoil. Là, on est d'accord que c'est la planète Terre.
Oui.
Et on est d'accord que dans le quatrième ou le cinquième volet, on voit comment les singes prennent possession de la planète Terre sur les hommes.
Oui, mais effectivement, alors là...
Et après, il y a la bataille de la planète des singes, où les derniers humains sont abattus par l'armée des singes. À mon avis, ça doit négativer quelque part avec les films.
Alors, c'est possible. Après, ça peut effectivement tout à fait, visiblement d'ailleurs, se passer juste après la possession de la Terre, la prise de la Terre par les singes.
Mais si je les ai vus il y a plus de 15 ans, mais il y avait...
Surtout les derniers. Le premier, ça se regarde facilement.
Bah, c'est vrai, mais ça passait sur la 5 quand j'étais gamin. Mais la bataille de la planète des singes, où je crois que c'est la dernière bataille entre les singes, où ils prennent possession, je sens quand même je sens un peu le concept pourri quand même.
Il y a un risque. Ça, je dois admettre, il y a un risque. Et c'est pour ça, effectivement, que je l'ai collé en revue des presses. On est quand même dans l'idée de s'attaquer à quelque chose qui est délicat. Parce qu'on est quand même...
Surtout de la SF-70, qui est quand même une SF particulière. On pense à Fleischer aussi avec Soleil Vert. C'est-à-dire une SF qui réfléchit sur la position de l'homme et tout. Est-ce qu'ils vont oser aller jusque-là ? Je suis pas trop convaincu.
Ouais, bah on verra effectivement ce que donne cette série. L'autre titre en indépendant, eh bien, il est chez Blue Water. Parce qu'évidemment, je ne fais jamais une revue de dépresse sans parler de Blue Water. Parce que Blue Water est l'éditeur spécialisé dans les biographies. Et souvent, ils me permettent de placer ce que l'on a coutume d'appeler dans cette émission l'Obama de la semaine, avec... une biographie politique ou une apparition d'un politique dans les comics. Alors pendant des mois, de toute façon, on avait du Obama toutes les semaines, donc il n'y avait pas de difficulté. Là, on va traverser, mais on va quand même être dans un remake des années 80.
La bio de Sarah Palin ?
Non, pas la bio de Sarah Palin, celle-là on l'a déjà eue, t'en fais pas. Non, on va partir sur le mariage du siècle. Eh oui ! Évidemment, on ne va pas aller remarier Lady Di une nouvelle fois,
donc on va...
mais on remake le mariage de Lady Di en mariant son fils.
D'accord.
Voilà. Et donc, eh bien, on va avoir le mariage de Kate Middleton et du prince William.
Ah oui, qui commence à avoir la même coupe de cheveux que Lex Luthor aussi.
Non, je croyais que t'allais dire une saloperie du style quand il t'est môme, il ressemble à sa mère. Plus ça va, il ressemble à son père. Voilà.
Non, même pas. Mais
non, bon, bah voilà.
Je serais pas méchant. En même temps, je me contrefous royalement de William.
Bon, après, on est quand même. L'Angleterre a évolué quand même. Il a le droit de se marier à une roturière.
Ah oui, après on revient là. C'est Edward VII qui avait pas pris l'accession au pouvoir.
Tout à fait.
ce qui est intéressant, c'est que il y a eu le discours du roi là qui est sorti, un gentil film, à mon avis très téléfilm de prestige, mais bon, plutôt sympa. Et c'est voir que on en revient vachement d'Edouard VII. On a dit oui, c'est le roi qui s'est marié avec une couturière, mais Edouard VII dans les années 30 avait quand même certaines amitiés allemandes.
Ouais. Et quand même à noter que Kate Middleton ne subira jamais l'outrage qu'on a fait à feu sa belle-mère, qui était la dernière femme à devoir passer l'examen gynécologique pour prouver sa virginité avant d'épouser le prince.
Tu fais super bien, Berne. Faut qu'on te fasse une petite musique, un petit bed musical.
Ouais.
Ouais.
Ouais, je suis pas sûr là.
Oh, si,
Non. Mais voilà, donc Lady Di, elle t'est passée chez le gynéco. Mmh. C'est d'ailleurs la raison, toute simple, pour laquelle pas la grosse vache, non, la Parker Bowl, n'a pas pu l'épouser à l'époque.
Lady Di était passée chez Gynico, c'est marrant ça.
Eh ouais, c'est la dernière à y être passée. Toutes ses belles sœurs y ont échappé, mais pas elle. En même temps, elle était destinée à devenir reine d'Angleterre. Le destin en a décidé autrement, mais bon.
Ceci explique cela, c'était peut-être pas un bon coup, tout simplement, Lady Di.
Comment ?
Ça devait pas. J'imagine pas un bon coup, Lady Di.
En même temps, comme son mari, elle n'avait pas franchement. Il avait toujours l'autre à côté.
Ouais, mais elle est peut-être très douée, la petite Parker Bowl.
Mais sûrement, mais bon, on va peut-être pas non plus disserter pendant des années sur les talents sexuels de Camilla Parker Bowl. Je ne sens pas l'entrain monter en moi. Donc, voilà. C'était effectivement.
Faut pas louper le wagon.
Ouais, voilà. Donc, au niveau des indépendances, c'est effectivement ce que j'avais retenu. Au niveau de Dark Horse et Image, j'ai retenu deux titres, un chez chaque. Chez Dark Horse, c'est Manus Robofighter qui en est au 7. Et pour lequel il y a un TPB, donc des 4 premiers qui sort ce mois-ci. La semaine dernière, je vous parlais de Solar, Man of the Atom, série que j'ai nettement appréciée en la lisant, même si j'avais de grosses craintes. Parce que finalement, Jim Shooter s'en sortait plutôt bien et j'étais rentré dedans. Il faut bien que je fasse confession, je ne suis pas du tout rentré dans ce revamp de Manus Robofighter par Jim Shooter. J'avais les mêmes craintes que sur Solar, mais là juste, ça m'a tourné dans le bec. Donc ce monsieur en jupette qui défend le monde contre des robots qui deviennent fous parce que les robots mentent à leur programmation, décident de ne plus obéir et qu'il faut donc un chasseur de robots dans ce futur qui se passe en l'an 4000, mais dont on sent bien que c'est un futur des années 50. Et voilà, et donc contrairement à Tron dont on parlait tout à l'heure, où on a senti l'aspect remonter, on a vu la science-fiction. Là, on sent juste que c'est ringard, quoi. Et comme contrairement à ce qui avait été fait dans le premier revamping, ils sont repartis sur la base, on revient dans cette idéologie et cette esthétique années 50. L'an 4000 vu dans les années 50, c'est plus l'an 4000 vu aujourd'hui. Donc techniquement, ça fonctionne pas du tout. Déjà parce qu'on se dit qu'ils sont finalement très en retard pour ce que devrait être l'an 4000. Et ça n'apporte rien et la société, elle a fait un bond en arrière parce que finalement, on est encore dans une société des années 50. Donc là, vraiment, on n'a pas du tout réussi à dépasser l'aspect ringard qui, au final, n'apparaissait pas dans Solar. Dans Manus Robofighter, l'aspect ringard, il est complètement là. Donc, je vais vous inviter à passer votre chemin, à éviter effectivement Manus. Et à ce moment-là, si vous voulez vraiment voir quelque chose de plus typé de l'époque, carrément acheter éventuellement les intégrales des numéros de l'époque qui ressortent. Parce que si vous voulez vraiment un cours d'histoire, autant prendre des choses historiques. Et sinon, si vous voulez quelque chose d'un peu plus modernisé, à vous mettre à Solar, qui là, effectivement, est une bonne série. Donc voilà, il y a des fois effectivement, j'en ai parlé à l'époque en revue de presse quand le 1 est sorti, parce que j'avais envie d'aimer. Et je me suis trompé, je dois par honnêteté intellectuelle vous le dire.
C'est toujours la même histoire, je crois que j'ai eu envie d'aimer Tron Legacy.
Ouais, on est effectivement sur la même logique, donc n'achetez pas Manus Robofighter. Après, il y a un autre titre qui s'appelle Marijuana Man.
Bon programme.
C'est un one-shot. Et c'est écrit par un certain Ziggy Marley. enfin créé par Ziggy Marley.
Le musicien fils de Bob.
Ouais, voilà. Donc, enfin, je comprends pas d'ailleurs, parce que enfin, son père était musicien, je sais pas pourquoi.
Ziggy a fait de la musique aussi.
Oui, voilà, et, enfin, il essaye de faire aussi bien que papa, enfin, il a marché haute quand même. Et donc, voilà, alors je ne sais pas pourquoi il s'intéresse à la botanique, j'ai jamais compris, parce que, voilà, c'est une famille de musiciens. Donc, là, il va nous parler de chanvre, avec ce monsieur marijuana, enfin, l'utilisation de substances illicites est tout aussi prohibée que le téléchargement. Et c'est donc Joe Kazé qui va écrire cet album. Et ça va être dessiné par Jim Mahfood, donc spécialiste de la bande dessinée un peu underground. Alors, pourquoi pas ? Sauf qu'il y a juste un moment où moi je m'étouffe devant le prix, quand même. 48 pages, $25.
C'est peut-être parce que ces pages peuvent servir à rouler autre chose.
Ouais, je pense que ça va être un papier plus épais, j'espère, parce que sinon 48 pages, je te promets que tu vas avoir du mal. C'est une couverture rigide, c'est un format franco-belge visiblement, mais quand même, c'est hors de prix.
Oui, mais c'est parce que ça se dit... Bon, alors, mais faire une BD sur ce sujet-là maintenant, ça fait un peu le vieux hippie mal digéré, à mon avis, c'est une BD pour vieux. Vieux qui veulent s'encanailler, bah, qui ont maintenant leur petite situation, qui sont peut-être même cadres supérieurs et qui fument de temps en temps leur pétard pour avoir l'impression d'être toujours rebelles.
En même temps, Ziggy Marley joue quand même beaucoup sur son nom de famille et son public, celui qu'il recherche, c'est quand même le 68ard attardé qui était
oui,
fan de papa.
Oui, c'est ça, mais voilà. Mais c'est que de prendre, je veux dire, il joue aussi, il y a quand même un jeu donc, sur le fait de Bob Marley et résumer ça en même temps, faire oui, je suis fils de Bob Marley, je fais une BD sur le pétard, je trouve ça un peu
facile.
Un peu pathétique, quoi, au final. Parce que c'est son père, c'est pas. C'est, on s'en fout du fumeur de pétard derrière Bob. Bob, c'est le mec qui avait des textes merveilleux, c'est un musicien extraordinaire avec les Wailers, un sens technique, un sens du positionnement. Génial, une musique merveilleuse. Le pétard, c'est juste un décorum.
Ouais, non, mais on est tout à fait d'accord. Après, voilà. Est-ce que vraiment il y avait une utilité à faire quelque chose là-dessus, même si on n'est pas des grands noms
Le prix va dans notre sens en plus. Voilà, vu que la BD est chère, on voit que c'est une BD pour les vieux.
Au départ, si tu veux, même le pire, c'est que quand je l'ai vu, j'ai fait mais il y a quoi là ? Il y a un espèce de truc biographique. Il a mis un CD 3 titres avec des bootlegs dedans. Parce qu'on nous avait fait ça notamment sur Bob Marley, où ils avaient fait une biographie qui était magnifique, qui s'appelait Voodoo Child, et pour laquelle ils avaient repris 6 morceaux inédits qui n'avaient jamais été pressés.
Ah oui, mais donc, en même temps, Bob, il a enregistré partout dans les pièces de sa maison, donc on a un peu ressorti tout ce qui était possible.
Voilà, et donc là, ils avaient sorti 6 titres inédits dans le cadre de cette bande dessinée. Donc, à la limite, il y avait une valeur ajoutée, et puis il y avait... L'idée de partir sur quelque chose de croisé, là, vraiment, ben, enfin, on n'ose même pas aller jusqu'au bout de ce genre de démarche. Donc c'était un peu décevant, là aussi, de leur part.